Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui fait la part belle à votre bonne humeur, sans jamais négliger l'essentiel, votre information. Vous informer ou périr, informado ou perich, telle est la devise de Céline Dacosta, la Françoise Giroud lusitanienne. Céline qui, même hors antenne, continue de scruter compulsivement le fil actu de l'AFP afin de ne rien rater.
T'as vu qu'il y a un perroquet au Brésil qui avertit des dealers que les flics arrivaient. Eh ben, il a été arrêté.
Qui ?
Le perroquet. je te jure que c'est vrai.
Heureusement, debout les copains, c'est aussi Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'occasion de la journée internationale de les libertés de la presse, revient sur l'histoire de la loi de 1881.
Merci d'écouter Europe 1 en ce vendredi 3 mai. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 3 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'épilogue d'une lutte de plusieurs années pour les 270 salariés d'Ascova, le tribunal a accepté l'offre de rachat par l'anglais British Steel. L'opposition demande des comptes à Christophe Castaner après ses déclarations polémiques sur l'intrusion de manifestants à la Pitié-Salpêtrière le 1er mai. Dans cette enquête, les 32 gardes à vue ont été levés. Et puis c'est un constat, les femmes ronflent autant que les hommes, même si elles ont un peu de mal à l'admettre. Les détails à la fin de ce journal.
Europe 1.
Ils peuvent enfin souffler et ils se sont battus pendant des années pour cela, sans rien lâcher. Les 270 salariés d'Ascoval ne perdront pas leur emploi. Hier, le tribunal de Strasbourg a accepté l'offre de rachat de l'acierie de Saint-Saulve par l'anglais British Steel. À l'annonce de ce sauvetage, une joie contenue car les salariés le savent. Maintenant, il va falloir remplir le carnet de commandes. Mais tous sont désormais confiants. Écoutez Valentin Slabolevski avec Lionel Gougelot.
Nous, on est prêt à retrousser ses manches. Il faut que les commandes suivent et bon, les politiques ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, on espère que ça va redémarrer comme il faut. Mais j'y crois, sincèrement, j'y crois.
Vous avez confiance en cet outil, cette usine, le savoir-faire des collègues?
L'usine, je connais le savoir-faire qu'il y a ici. Quand même, je suis ici depuis 89. On a des gens super compétents. On a un outil de travail qui est ultra moderne. Maintenant, il faut lui donner à manger, cet outil. Et puis, bah, ça va le faire, tout simplement. Moi, j'en avais un peu marre. J'aurais dit, j'ai 58 ans, on m'aurait dit, bah, tu prends tes 40 000, tu te casses, et ça allait bien. Puis non, tout compte fait, maintenant, je pense que le projet devrait tenir la route. J'aimerais bien finir ma carrière ici, pas me retrouver au chômage alors que je sais pertinemment que je ne ferai plus rien. Non, je dis qu'il y a encore un beau challenge, on a des atouts. Bon, maintenant, il faut y croire, tout simplement.
Valentin Slabolevski avec Lionel Gougelot. Les 32 personnes qui ont été placées en garde à vue après l'intrusion à la Salpêtrière en marge du défilé du 1er mai ont toutes été relâchées. Le parquet a précisé hier soir que les investigations se poursuivaient. Après l'emballement général, des vidéos et témoignages viennent contredire la thèse de Christophe Castaner qui avait parlé d'attaque au sein de l'hôpital et de violence. L'opposition demande des comptes ce matin. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, hier soir sur Europe 1, a exigé la démission du ministre de l'Intérieur.
D'abord, il faut remercier les soignants qui sont sortis du silence et qui ont pris la parole. Et d'ailleurs, je veux dire que dans le contexte, c'est même courageux de leur part de l'avoir fait. Donc ce triptyque permanent face aux mouvements sociaux, où en amont ces dissuasions, pendant ces répressions et après ces tentatives de diversion, ça suffit. Après cet acte-là, M. Castaner ne peut pas rester et il doit démissionner. Il n'est pas digne de sa fonction, il ne se comporte pas en homme d'État. Dans une démocratie, un ministre de l'Intérieur qui instrumentalise à ce point la presse et fait porter le chapeau à un mouvement social dans ce qu'est la continuité de la tentation, de la diversion que M. Castaner utilise depuis le début du mouvement des Gilets jaunes notamment, ne peut pas rester, ça a le mérite d'être clair.
Adrien Quatennens, hier soir sur Europe 1 dans le grand journal du soir. Yannick Jadot lui exige une commission d'enquête parlementaire, tête de liste des écologistes aux européennes. Il accuse le gouvernement ainsi que le ministre de l'Intérieur de souffler en permanence sur les braises de la violence. Le prix du permis de conduire pourrait baisser de 30%, annoncière du gouvernement, de 10 mesures. Certaines avaient déjà été avancées, comme la gratuité du passage du code pour les volontaires au service national universel. Le gouvernement souhaite aussi, d'ici la fin de l'année, créer un site internet qui compare les auto-écoles.
Et puis Céline, nos prochaines vacances vont me coûter plus cher que prévu. À partir d'aujourd'hui, pénétrer dans la ville de Venise aura un coût.
C'est vrai, vous m'emmenez à Venise?
Je voulais vous faire la surprise, mais là...
De 2,5 à 10 euros en fonction de la saison. L'objectif est de réduire le tourisme et permettre également de payer la remise en état de certains sites justement dégradés par un trop grand nombre de visiteurs. Venise n'est pas la première ville à prendre cette mesure. Ça fait des années que certaines municipalités s'engagent contre le tourisme de masse. Marguerite Lefebvre.
Pour un habitant de Venise, comptez 545 touristes. Les ruelles de la cité des Doges sont de plus en plus embouteillées, un afflux qui fait flamber les prix de l'immobilier et qui pousse les Vénétiens à fuir leur ville. 1000 d'entre eux font leur carton chaque année. Pour enrayer cette tendance, un péage urbain réservé aux touristes voit donc le jour aujourd'hui. Il y a 3 ans, Barcelone a interdit son célèbre marché de la Boqueria au groupe de plus de 15 personnes. Amsterdam entend aussi interdire les hôtels flottants qui polluent ses canaux. Sur l'île grecque de Santorin, on a même fixé un numerus clausus, pas plus de 8000 arrivées de touristes par jour. Les mesures se multiplient, mais seront-elles efficaces? Josette Siksik est directrice de l'Observatoire Touriscopie.
Il y a une exaspération de la population locale qu'on essaye de calmer par ce type de mesures. Ça peut avoir une efficacité, mais c'est une efficacité à la marge. Quand vous voyez que le nombre de dessertes aériennes entre le Portugal et la France hebdomadaires, qui était d'environ une trentaine il y a 5 ans, est aujourd'hui de 540, c'est pas quelques mesurettes qui vont enrayer le phénomène.
Et ce trafic aérien, avec le développement des low cost, ne devrait pas se contracter. Au contraire, le nombre de passagers dans le monde pourrait doubler dans les 15 ans qui viennent.
Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Un bateau de croisière de la secte des scientologues placé en quarantaine en raison d'un cas de rougeole à bord du navire. Les autorités de Sainte-Lucie dans les Caraïbes ne veulent prendre aucun risque. Le navire de 134 mètres avec 300 passagers à bord est amarré depuis mardi dans le port de la ville. Et puis en Suisse, la rougeole a fait 2 morts dans le pays depuis le début de l'année. L'Office fédéral de la santé publique souligne l'importance de la vaccination pour empêcher la propagation de cette maladie hautement contagieuse.
Alors Céline, c'est vrai que ça brise un peu un mythe, n'est-ce pas? Mais moi j'ai pu le constater, moi qui ai souvent dormi à côté des varocs.
Oh,
les femmes, contrairement à l'idée reçue, ronflent autant que les hommes.
Oui, c'est ce que révèle une étude israélienne.
Heureusement que je dis pas la réalité.
Qui vient d'être publiée. Alors, les chercheurs ont analysé le sommeil de 2000 volontaires. Le résultat est indiscutable. Il y a la même proportion de ronfleurs aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et surtout la même intensité, 50 décibels environ. En fait, le problème, c'est que les femmes en ont beaucoup moins conscience ou tout simplement elles ne veulent pas l'admettre. Et surtout, il peut y avoir des risques pour la santé. Mélanie Gomez.
À la question « Pensez-vous ronfler, c'est simple ?», la majorité des femmes répondent un non catégorique.
Non, je ronfle pas, je suis une princesse. C'est comme le poids, c'est comme tout ça, c'est des sujets tabous, ça, on le dit pas.
Oui, je pense que de temps à autre, j'aurais pu ronfler, hein. C'est pas interdit, mais en tout cas, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de retour dans ce sens non plus. Donc.
Non, je crois pas que je ronfle, on l'a jamais dit.
Alors pourtant, dans cette étude, près de la moitié des soi-disant non-ronfleuses le sont en réalité. Comme en témoignent ce couple, François et Nathalie, après plus de 20 ans de mariage, ils osent enfin le faire remarquer à sa femme.
Là, je lui avoue, là, devant vous, pour la première fois de notre vie, qu'elle ronfle. C'est terrible, je ne sais pas comment elle va le prendre.
Non, je ronfle pas.
Mais le problème, c'est qu'ignorer qu'on ronfle peut avoir des conséquences, par exemple, passer à côté parfois d'un syndrome d'apnée du sommeil, qui lui entraîne de graves problèmes, selon le docteur Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil.
Chez la femme, il y a un risque majoré, plutôt d'accidents vasculaires cérébraux, alors que chez l'homme, c'est plutôt sur le plan cardiaque qu'il va y avoir des complications.
Alors heureusement, tous les ronfleurs n'ont pas d'apnée du sommeil, mais si vous ronflez et que vous avez des maux de tête au réveil ou une fatigue dès le matin, homme ou femme, surtout n'hésitez pas à consulter, car il y a des traitements efficaces.
Mélanie Gomez, il mesurait 2m21. L'acteur qui incarnait Chewbacca dans Star Wars est décédé. Il s'appelait Peter Mayhew, il avait 74 ans. C'était le plus gentil des géants, a commenté sur Twitter l'acteur Mark Hamill, alias Luke Skywalker.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et non Céline, hélas, je n'ai pas prévu de voyage à Venise, pas encore en tout cas. Céline, une journaliste qui comme moi vit à 1000 à l'heure, nous n'avons pas le temps pour tout ça. Lorsque je lui ai donné rendez-vous ce soir pour une entrevue rapide dans une chambre borgne de l'hôtel Ibis Budget de la Porte de Bagnolet, afin que nous soyons chacun rentrés chez nous vers 20h, j'ai eu peur qu'elle me reproche de ne pas être suffisamment romantique, justement. Mais non, elle m'a simplement dit avec cette franchise décomplexée des femmes du 3e millénaire.
La priorité ce n'est pas la rapidité mais la qualité du chantier.
Parfois quand même, j'aime mon époque.
Europe 1.
5h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Fabrice Dalméda revient sur un combat plus que jamais d'actualité.
Excellent réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h10, Mathieu Noël.
Céline, on fait un point sur la météo. Encore des nuages et de la pluie aujourd'hui.
Oui, c'est assez simple. Une journée mitigée avec au milieu de tout ça encore quelques éclaircies tout de même. Les averses les plus fréquentes, elles s'étendent ce matin du sud-ouest au nord-est. Et puis cet après-midi, on va les retrouver surtout des Pyrénées aux Alpes. Les côtes atlantiques et celles de la Manche seront épargnées. Un temps sec et du soleil. Et puis on aura de la neige également sur les reliefs. 10 à 20 cm tout de même sur les Pyrénées. 5 à 10 sur les Alpes. Puis on va perdre encore quelques degrés cet après-midi, une moyenne de 13 à 17 degrés et 16 à 20 encore près de la Méditerranée.
Eva, dans la série des journées mondiales ridicules, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale du soleil.
Oui, après ridicule, non, ça fait plaisir de parler du soleil. Hein.
Ça fait plaisir de parler du soleil, effectivement.
Depuis ce matin 5h, on vous demande à quoi vous pensez quand on vous prononce le mot soleil. Eh bien, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Claire nous dit le chant des cigales, la mer et surtout un bon transat bien confortable. Caroline nous parle de la Corse, une randonnée dans le Cap, la plage de la Marana à Bastia, sable chaud, eau turquoise, soirée pique-nique en tribu, à admirer le coucher du soleil. On y serait presque.
Avec
hein.
Un bon temps bagnard.
Exactement. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent de cette musique.
Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil.
Toute ma jeunesse qui défile sous mes yeux comme ça.
Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Merci.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il n'est que muscle, il dégage une puissance phénoménale. Jérôme Lacroix nous a rejoint pour le Journal des Sports. Jérôme, des projets pour le week-end ? Oh, j'imagine beaucoup de sport !
Mais aussi un peu de sexe et beaucoup de vin.
Ah, le voilà donc, votre secret, Jérôme. À la une du Journal des Sports, objectif... Oh, j'en attendais pas tant. Objectif, première étoile.
Oui, Corinne Diacre est une femme qui assume. La sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminin vise ouvertement le titre mondial le 7 juillet prochain, jour de la finale de la Coupe du Monde qui démarre en France. Dans un mois, le sprint est lancé avec l'annonce hier depuis le plateau du 20h de TF1 des 23 joueuses retenues. Sans tressaillir, Corinne Diacre a annoncé la couleur de son ambition.
Bah, le président m'a fixé l'objectif d'aller en finale. Voilà. Quand j'ai pris l'équipe de France à la demande du président Le Graët, les choses étaient, je pense, assez claires. En tout cas, pour moi, ce serait vraiment un échec, oui.
Corinne Diacre qui assume aussi la surprise de sa liste, l'absence de Marie-Antoinette Katoto, immense talent. 20 ans, son club, c'est le PSG. On dirait que je vous décris Kylian Mbappé. Bah, oui, logique, analogie. Malgré son statut de meilleure buteuse de D1, 22 buts, Corinne Diacre a choisi de ne pas la prendre, trop jeune encore.
Elle va être déçue, je le sais. Ça ne peut pas être autrement. Et si c'était autrement, ça veut dire qu'elle s'en fout de la sélection. Et je sais qu'elle ne s'en fout pas. Elle a 20 ans. Elle a tout l'avenir devant elle. Qu'elle se pose les bonnes questions sur le pourquoi de ces échecs-là. Pour que ensuite, et dès l'année prochaine, ça m'ira très bien, elle puisse changer d'attitude sur le terrain. Parce que très sincèrement, pour moi, elle a un gros travail à faire.
Des propos recueillis par Julien Froment.
Le reste de la liste est sans surprise.
On retrouve la gardienne Sarah Boisdi, la défenseure Wendy Renard, la milieu Amandine Henry, ainsi que l'attaquante de Montpellier, Valérie Gauvin. Elle a assisté à l'annonce de sa sélection en direct à la télé, entourée de ses proches.
C'est vraiment un grand plaisir.
Une grande sportive que vous êtes ne boit jamais de champagne, mais ce soir, il y a quand même une exception, non ?
Oui, il y a un peu d'exception, mais pour l'instant, on est quand même tranquille, ça va.
Les amis sont fiers de vous, vous embrassent ?
Oui, j'ai plein de messages et j'ai pas pu leur répondre encore parce qu'il y en a tellement et que pour l'instant, je peux pas tous leur répondre en même temps.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Début de la préparation mondiale mercredi prochain, rassemblement à Perros-Guirec en Bretagne. Suivront deux matchs de préparation, France-Thaïlande le 25 mai à Orléans et France-Chine le 31 à Créteil. Premier match du mondial le 7 juin, France-Corée du Sud au Parc des Princes. Les garçons et deux buts hier soir de l'attaquant français d'Arsenal Alexandre Lacazette. Les londoniens battent à domicile Valence 3-1 en demi-finale aller de la Ligue Europa. Dans l'autre match, le Chelsea de Giroud et Kanté ramène un bon nul 1-1 de Francfort. Match retour jeudi prochain.
Ce soir, il y a de la Ligue 1 et Marseille pour rebondir.
Strasbourg-Marseille, 20h45, match avancé de la 35e journée. Les Fossés, un 5e, battu à Nantes la semaine dernière. Battu à domicile par Nantes la semaine dernière. Ils espèrent toujours se qualifier au moins pour la prochaine Ligue Europa en accrochant la 4e place du tennis. Et Lucas Pouille et Joe Wilfried Tsonga trouvent au tournoi de Bordeaux, 2e division, ce qu'ils sont venus chercher des victoires pour retrouver la confiance. Ils ont tous deux remporté leur match hier et se hissent en quart de finale.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Oui, j'ai commencé foot féminin, je boucle la boucle pour vous raconter l'histoire d'une joueuse brésilienne connue sous le nom de Formiga. Elle est inoxydable, 41 ans, 26 années de carrière et elle joue toujours au milieu du terrain. Elle est au PSG, elle y a prolongé hier son contrat jusqu'en 2020. Dans un mois, elle devrait disputer avec le Brésil sa 7e Coupe du Monde, un record. Et alors le secret de sa longévité, dit-elle, c'est pas de peau pour nous, je dors beaucoup.
Ah, mince alors.
C'est pour ça que je voulais vous
raconter. On fera pas de vieux os. Merci, c'était le Journal des Sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, on passe à la rubrique Histoire de notre matinale. À la base, en début de saison, j'avais d'abord pensé vous raconter des histoires personnelles.
J'aime beaucoup le Portugal. J'ai fait du camping au Portugal à une époque, je vous raconterai ça.
Mais le bon enthousiasme de Céline, j'ai préféré embaucher Fabrice Almeida pour parler de l'histoire avec un grand H.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour à tous.
Depuis 1993, les Nations Unies ont désigné le 3 mai Journée mondiale pour la liberté de la presse, liberté menacée dans le monde par la censure et les fake news. Mais quand s'est-elle vraiment imposée en France, cette liberté de la presse ?
Alors, il y a eu des tentatives dès 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 11 proclame la liberté d'expression. Mais la grande loi, toujours référence de notre droit, remonte au 29 juillet 1881. Elle a été préparée par un des fondateurs de la presse populaire dans notre pays, l'inventeur du roman feuilleton dans les journaux, Émile de Girardin. Il était élu député en républicain en 1877 et c'est lui qui anime la commission préparatoire. Mais il meurt le 27 avril 1881, avant la fin des travaux. C'est donc un avocat républicain fervent, Eugène Lisbonne, qui en sera le rapporteur à la Chambre. La loi est adoptée à l'unanimité moins 4 voix, car pour les députés, la liberté de la presse complète l'exercice du suffrage universel.
Et est-ce qu'ils ont établi des limites à la liberté d'expression ?
Ben oui, dès le départ, ils posent deux limites. La première pour protéger les personnes. Ils définissent le droit de poursuivre, après publication, devant un jury, un journal qui publierait des propos injurieux ou diffamatoire. La seconde limite est pour protéger l'information elle-même. C'est l'interdiction de publier des fausses nouvelles. Mais depuis, les juges ont restreint son application aux cas qui entraînent la mobilisation des forces publiques, donc les fake news échappent aux poursuites.
Mais depuis, la censure est revenue.
Bah oui, durant les deux guerres mondiales et les conflits coloniaux comme la guerre d'Algérie, il y a eu une censure au sens strict, mais elle est restée provisoire. Et depuis 1972, en revanche, de nombreux textes sont venus limiter les injures racistes, sexistes et homophobes, ou encore protéger la vie privée. Mais cela n'a pas changé l'esprit de la loi de 1881. Bien des peuples nous l'envient, car la liberté de la presse aujourd'hui reste fragile dans le monde.
Merci beaucoup Fabrice. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et de rencontres instructives. Aujourd'hui avec notre invité, on vous entraîne au cœur de la diplomatie française.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ?
Les Japonais.
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
À 6h20, du haut de son objectif, 37 ans de voyage officiel nous regarde. Frédéric Delamure était le photographe officiel du Quai d'Orsay depuis 1982. La photo de la poignée de main, Helmut Kohl-Mitterrand, c'est lui. Il vient de prendre sa retraite. Il partage ses souvenirs avec nous ce matin sur Europe.
Très bon réveil à tous. Il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les 32 gardes à vue ordonnés dans le cadre de l'enquête sur une intrusion au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai ont toutes été levées. Des témoignages et vidéos contredisent la thèse d'une attaque avancée par le ministre de l'Intérieur lors du 1er mai. Le soulagement pour les 270 salariés d'Escoval, le tribunal de grande instance de Strasbourg a confié la reprise de la scierie à British Steel. Enfin, en football, la sélectionneuse Corinne Diacre a annoncé la liste des 23 joueuses retenues pour le mondial organisé en France à partir du 7 juin. La pépite du PSG, Marie-Antoinette Katoto, n'a pas été retenu.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 3 mai. L'actualité, c'est aussi un pot d'adieu. Pas de son pour vous. J'avais prévu une petite musique, j'avais prévu pour lui Michel Sardou. Depuis 1982, oui, chers auditeurs, depuis ma naissance, il était le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères. Du haut de son objectif, 138 pays nous contemplent. Il a rencontré quasiment tous les chefs d'État de ces 37 dernières années. Bonjour Frédéric Delamure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous avez donc quitté votre bureau hier. Vous allez nous raconter ce que c'est que d'être le photographe officiel du Quai d'Orsay. Mais d'abord, j'imagine que l'émotion a dû être considérable pour vous. Déjà parce que 37 ans dans une même entreprise, de nos jours, c'est devenu rarissime, mais surtout quand cette entreprise, c'est le Quai d'Orsay.
Oui, bien sûr, c'est émouvant parce que bon, c'est quand même une page d'histoire qui se tourne, où j'ai été témoin tous les jours de beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, il faut passer aussi à autre chose.
Est-ce que vous avez des objets physiques dans vos cartons que vous emmenez avec vous, des dossiers secrets, des bibelots, des photos particulières quand vous avez au moment de faire les bagages hier ?
Non, je ne suis pas trop à regarder dans le rétroviseur. Bon, bien sûr, j'ai quelques images symboliques. Non, pas trop.
Pas trop, pas d'objet particulier.
Non, pas d'objet particulier.
Alors, dans la série, quand même, meilleur job du monde, je crois que vous pouvez témoigner. Comment on devient photographe officiel du Quai d'Orsay, déjà ?
Bon, c'est un petit peu le hasard, en fait. Il y a quelques années, tout à fait au début, j'avais gagné un concours qui a été organisé par Le Monde sur. C'était des journalistes un poste au Japon et des journées japonais en poste à Paris. Et moi, j'avais voulu faire un reportage sur la vie des enfants au Japon. Et quelques années après, un membre du jury allait au point de presse tous les jours. Il y avait à l'époque un point de presse sur la diplomatie au Quai d'Orsay. Et ils avaient annoncé qu'ils cherchaient un photographe. Et cette journaliste m'avait prévenu de...
Il y a toujours eu un photographe officiel au Quai d'Orsay?
Non, je suis le premier.
Avant le premier?
Oui, je suis le premier.
Et il y a quelqu'un qui vous remplace?
Oui, il y a quelqu'un qui me remplace.
Ah oui, là ça continue quand même. Alors attention, dans l'expression photographe officiel, il y a une connotation un peu figée, parce que stalinienne, mais votre truc, c'était pas que les soirées de l'ambassadeur et les petits fours. Hein. Vous dites, j'ai toujours voulu montrer les conséquences de la diplomatie, et pas seulement les poignées de main. Comment rendre compte de ça lorsqu'on est photographe officiel quand même? On a une marge de manœuvre?
Oui, tout à fait, parce que bon, la photographie officielle, c'est important, parce que c'est quand même souvent des photos qui marque l'histoire et un temps présent. Et après, la partie... Moi, j'ai toujours essayé de développer la partie à côté aussi pour montrer un peu les conséquences. Donc, ça peut être des négociations, par exemple, sur le Kosovo. Mais après, j'allais sur le terrain montrer un peu ce qui se passe. Que la diplomatie, c'est pas qu'un point T. Il y a des suites après.
Alors, vous êtes l'auteur quand même... Il y a quand même des poignées de main, et des poignées de main qui restent dans l'histoire. Celle de François Mitterrand tenant la main d'Edmund Kohl en 1984. Vous pouvez nous raconter les coulisses de cette photo qui a marqué
Déjà, ce que je voulais dire, j'étais pas le seul. J'étais le seul, en fait, avec un autre photographe sur un podium. En fait, ce qui était drôle dans cette histoire-là, c'est que cette photo, pour moi, ça a été, du moins, elle a été présentée comme une punition. Parce que deux jours avant, j'avais été convoqué à l'Élysée avec les autres photographes pour qu'on choisisse nos places. Et moi, je suis arrivé un petit peu en retard, vu que j'avais un autre rendez-vous avant. Et on m'a dit, monsieur Delamure, vous êtes en retard, donc vous aurez la plus mauvaise place. vous serez devant la tombe du soldat inconnu, vu que vos petits copains, eux, sont dans les allées. Moi, j'aurais pris aussi comme place pour pouvoir voir le chancelier Kohl et le président Mitterrand faire une photo avec plein de croix derrière, en train de les voir marcher, déambuler dans le cimetière. Donc moi, je vais retrouver devant la tombe du soldat inconnu. C'est là, avec un photographe, et c'est là qu'ils se sont pris les mains.
Finalement, vous avez été chanceux. Ce geste, donc, justement, est-ce que vous qui l'avez capté, est-ce qu'il était spontané, selon vous, ou est-ce qu'il était conçu comme un geste de communication? Aujourd'hui, on penserait tout de suite que c'est de la com. À l'époque, est-ce que c'était spontané?
Alors là, c'est une grande question, parce qu'on la pose très très souvent. Honnêtement, je ne peux pas le dire. Parce que vous savez, quand on a un appareil de photo, on a un peu un filtre entre soi et ce qu'on voit. Et en plus, quand on regarde des images de télévision de l'époque, c'était une télévision haute, du moins qui filmait pour tout le monde. Et au moment où il y a eu la poignée de main, où ça a commencé, la télévision faisait un grand plan sur les soldats qu'il y avait autour. Donc, ils ne fixaient pas le président Mitterrand. Donc, les seules images qu'on a, finalement, c'est hop, quand il y a déjà la main. Donc, c'est très dur de voir le regard qui
main,
a commencé.
Le regard, et donc, on ne sait pas s'il lui a fait un petit clin d'œil avant.
Mais en tout cas, c'était... Le résultat, c'est que quand même, c'était extrêmement émouvant, parce que c'était vraiment une sorte de témoignage devant les vivants et les morts, que la guerre était finie, en fait. Hein,
Alors, photographe au Quai d'Orsay, pour vous, on l'a dit, c'était pas qu'immortaliser des poignées de main entre deux Ferrero Rocher, c'était aussi aller sur le terrain, parfois même prendre des risques. Hein. Vous avez été volontaire, je crois, pour vous rendre à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo pendant les bombardements de l'OTAN. Dans le cahier des charges à la base de votre métier, mais vous avez toujours voulu en faire plus.
C'est pas en faire plus, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer un peu ce que faisaient les Français, en fait, sur place. Et j'ai fait ça dans tous les pays. C'était de montrer, en fait, qu'il y avait des associations humanitaires. C'était Médecins Sans Frontières qui faisaient des maraudes pour récupérer les réfugiés qui fuyaient les bombardements de Kosovo vers l'Albanie. Donc j'étais à Koukèche, précisément.
Vous avez aussi vécu des choses difficiles, je crois, en Haïti, notamment.
Oui, alors Haïti, c'est un peu une histoire aussi un petit peu bizarre, parce que quelques mois avant le tremblement de terre, j'avais demandé de faire un reportage sur un ambassadeur, comment ça se passait, la prise de fonction d'un ambassadeur sur place.
Donc ça devait être un petit peu un reportage soft.
C'était très soft même, le président,
Raymond Rocher,
service, puis en même temps, bon, tout ce qu'il y avait à côté, ce qui se passait à Haïti. Et puis deux mois après, tremblement de terre, et là je demande à repartir aussi sec. Je suis reparti le lendemain du tremblement de terre, où là je me suis retrouvé dans un chaos pas possible, il y a eu 300 000 morts quand même, du jour au lendemain. Et donc j'ai voulu refaire un reportage un peu sur tous les Français qui avaient là-bas, comment se passait en fait une sorte de gestion de crise extraordinaire. Et là, tout le monde était rassemblé dans la résidence de France, très bien, qui était entièrement démolie à 100%. Et tout le monde était dans des tentes, on vivait avec des rations de combat et on se lavait dans la piscine. C'était assez étonnant comme... Mais c'était très dur, ça, très dur.
Je ne vous demanderai pas avec quel ministre vous êtes le moins bien entendu. Je vous la fais facile. Avec quel ministre, durant ces 37 ans, ça s'est le mieux passé? Quelqu'un avec qui peut-être vous êtes resté en contact, ou quelqu'un qui vous a impressionné plus que les autres?
Bah, j'ai toujours... c'est vrai que moi, j'aime bien les ministres qui ont une vision un petit peu lointaine des choses aussi. Et souvent, on est souvent beaucoup maintenant, de plus en plus dans l'immédiateté. Hein, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé travailler avec Hubert Védrine et Alain Juppé. Ça a été
c'est noté.
Moi, des grands ministres, moi, avec les autres, c'est très bien passé aussi.
Je vois que vous avez appris la diplomatie pendant toutes ces années.
Non, mais c'est intéressant, je trouve des visionnaires, en fait.
Et ben, en fait, vous ne prenez pas réellement votre retraite parce que vous repartez en voyage, mais cette fois-ci pour vous, c'est ça?
Oui, je pars pour moi, mais c'est quand même un lien avec mon passé. Je pars là dans quelques jours, je vais faire à bicyclette tout l'ancien rideau de fer. Et donc c'est un peu, moi j'avais, il y a 30 ans, j'avais assisté à toutes les négociations diplomatiques sur la réunification de l'Allemagne et la fin des deux blocs. Je trouve c'est intéressant d'y aller vraiment, pas en Falcon cette fois-ci, hein,
mais en vélo.
Faire un peu plus de... presque 3000 km, en faisant des points de couture entre les deux Allemagnes, la République tchèque, la Hongrie.
On verra ces photos dans une exposition ou un livre.
J'espère.
D'accord.
Merci beaucoup en tout cas Frédéric Delamure, ancien donc, photographe officiel du Quai d'Orsay, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1 et bonne chance pour la suite.
Europe 1, il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal de Sophie Tussaud et puis la météo avec de la pluie, des nuages et en plus des températures fraîches pour la saison.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant de retrouver toute l'actualité dans le journal de Sophie Tussaud, un point sur la météo, un ciel pluvieux encore aujourd'hui, Céline.
Oui, un petit peu partout déjà ce matin, mais particulièrement entre le sud-ouest et le nord-est. Cet après-midi, des nuages, des éclaircies un petit peu quand même, et quelques averses également. Les plus fréquentes seront présentes entre les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes. Les Alpes, on aura de la neige, ainsi que sur les Pyrénées et le Massif central. Le soleil va résister sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche. Les températures, elles, vont commencer à baisser. On perd 2 à 4 degrés hein, cet après-midi. 13 à 17, c'est la moyenne. 16 à 20 encore près de la Méditerranée.
Merci Céline.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire et sans jamais une seule Annie Croche grâce à des moyens de production pharaoniques, pour ne pas dire titanesques. 3 ordinateurs sous Windows 98, 8 MO de RAM, 4 gigas de disque dur, forcément c'est fluide.
Ça bug les écrans en fait. Tu vois l'écran qui est là
L'écran de pub là-bas fonctionne plus et moi mon écran fonctionne plus non plus.
On est peut-être même pas à l'antenne en fait.
Ils n'ont pas besoin d'ordinateur, tout est dans leur tête. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques vous décortiquent l'actu afin que vous puissiez arriver à la machine à café avec un point de vue. Aujourd'hui, notre agent infiltré, Mickaël Darmon, nous révélera notamment les différents groupes, pour ne pas dire les différents clans, qui se forment au sein du gouvernement.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le permis de conduire devrait à présent coûter moins cher. Avec les mesures annoncées hier, le gouvernement espère une baisse de son prix de 30% pour y arriver, un entraînement sur simulateur. Christophe Castaner accusé de jeter de l'huile sur le feu. Le ministre a parlé d'attaque de la pitié salpêtrière lors des manifestations du 1er mai. Les images montrent tout autre chose. Et puis la sortie aujourd'hui du dernier album des Bidochons, article coquin et lingerie fine. Robert et Raymond réveillent leur vie de couple.
Europe 1.
Un permis de conduire moins cher, c'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron en novembre dernier. Il coûte en moyenne 1 800 €, et avec les mesures détaillées hier, il pourrait baisser de 30% selon le gouvernement, grâce notamment à un forfait de 10 heures sur simulateur et 10 heures de conduite. Aude Vernuccio s'est rendu en région parisienne, au Vésinet et à Sannois, pour savoir ce que les auto-écoles en pensent.
Cela fait plus de 10 ans que Christophe Joannet fait travailler ses élèves sur simulateur. Des cours plus économiques, 20 euros de l'heure contre 54 en voiture, et moins stressant en début de formation.
Le simulateur va lui expliquer comment démarrer et s'arrêter 3 fois de suite pour pouvoir valider l'exercice et passer à la suite. Et dès la première leçon en voiture, ils sont déjà capables de démarrer, passer les vitesses, rouler.
Une méthode qui fonctionne, à condition d'avoir suffisamment d'heures de conduite en complément, d'après lui.
La difficulté de la conduite, c'est surtout d'observer autour, d'analyser les dangers et de réagir correctement face aux situations. Certains élèves n'ont jamais touché une voiture, ont beaucoup de difficultés. On va dire que 1%, même pas, de la population est capable d'avoir son permis avec un forfait de 17 et 10.
C'est-à-dire 10 heures de simulateur et 10 heures de conduite. Et pour ceux qui échouent à l'examen, le gouvernement veut faciliter la conduite supervisée avec un accompagnateur lambda. Seule condition qu'il ait plus de 5 ans d'expérience. Une mesure contre laquelle s'insurge Attika Boudrich de l'école de conduite française de Sannois.
On prend une voiture double commande, un accompagnateur qui a son permis de conduire et on roule. Ça s'appelle du roule ma poule. Là, on parle de coûts, mais on ne parle pas de sécurité routière. C'est le plus important.
Avec ces mesures, cela pourrait même être possible dès 17 ans, tout comme l'obtention du permis. Mais il faudra bien attendre ses 18 ans pour pouvoir conduire seul.
À le reportage d'Aude Vernuccio. Que s'est-il réellement passé mercredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris? Des manifestants ont fait irruption dans l'hôpital lors des défilés du 1er mai. Christophe Castaner a évoqué une attaque, mais une vidéo diffusée ensuite montre plutôt une grande confusion, Jean-Jacques Herry.
La vidéo est filmée depuis l'intérieur du service de réanimation par un membre du personnel soignant. On aperçoit dans la cour de l'hôpital plusieurs dizaines de personnes qui patientent dans le calme. Soudain, on voit un autre groupe de manifestants arriver en courant à droite de l'écran et semblant visiblement fuir l'arrivée de la police. Panique, confusion. Dans le mouvement de foule, plusieurs dizaines de personnes se mettent à courir et montent brusquement sur la passerelle menant au service de réanimation. Lorsqu'elles parviennent en haut, au niveau de la porte vitrée, le personnel soignant leur dit de ne pas rentrer. Un dialogue difficile s'engage.
Il y a des malades. C'est la réanimation.
La séquence ne dure que quelques minutes en tout. Certains tirent sur la poignée. Il y a quelques coups portés sur la porte. Mais durant ce court laps de temps, personne ne tente véritablement de forcer l'accès rapidement. Des motards de la police arrivent sur place. Seuls deux d'entre eux montent sur la passerelle, d'où les manifestants finissent par descendre un à un dans le calme. Si certains d'entre eux portent des gilets jaunes, aucun n'apparaît masqué.
Jean-Jacques Herry, à la suite de cette affaire, l'opposition réclame des explications. Elle crie au mensonge du ministre de l'Intérieur et demande son départ du gouvernement. En parallèle, les 32 personnes placées en garde à vue ont-elles été relâchées hier soir? Édouard Philippe, de retour sur le terrain, le Premier ministre a délocalisé Matignon à Angoulême pour 2 jours. L'occasion, après 6 mois de tempête sociale, de vanter les mesures prises pour le pouvoir d'achat. Ce qu'il a fait hier lors de la visite d'une usine de chaussons en Charente. Mais les salariés, eux, ne voient pas les choses de la même façon. Jean-Rémy Baudou.
Dans ces ateliers, on fait des charentaises à la main. Un savoir-faire local, 140 salariés, principalement des femmes, des ouvrières à 1200 euros par mois.
Je crois que monsieur le Premier ministre voudrait essayer.
Non, je suis incapable. Édouard Philippe vient vendre ici le bilan des aides du gouvernement pour le pouvoir d'achat annoncé en décembre. Mais Christelle, dans l'entreprise depuis 25 ans, reste perplexe.
Pour moi, ça n'a rien changé grand-chose. L'histoire des gilets jaunes et compagnie, ça, à mon avis, ça n'a rien fait évoluer, hein, je crois pas.
Dans cette usine, pas d'heures supplémentaires et la prime Macron de 350 euros, elle la voudrait plus souvent.
Oui, on a eu droit à une petite prime, oui, effectivement. C'est pas énorme, hein. Voilà, c'est pas énorme, c'est toujours mieux que rien, voilà.
Le Premier ministre, lui, vante les chiffres au niveau national.
La prime exceptionnelle, elle a été, là encore, beaucoup utilisée par les entreprises. Le montant moyen des primes qui ont été versées est de l'ordre de 400 euros, ce qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat. Les mesures que nous avons mises en œuvre en décembre commencent à produire leur effet, cet effet est notable.
Édouard Philippe repartira avec des charentaises bleu-blanc-rouge brodées à son nom. Rivière, Jean-Rémy Baudeau, Europe 1.
Le soulagement pour les 270 salariés d'Ascoval. Après 4 ans de rebondissement, le tribunal de grande instance de Strasbourg confie la reprise de l'aciérie du Nord au Britannique British Steel.
À suivre dans ce journal, nous passerons du coq à l'âne, des vestiges historiques du 18e potentiellement détruits, au dernier album des Bidochons. A tout de suite.
Excellent réveil sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, Sophie Tussaud. Et si nous partions en balade dans les châteaux de la Loire avec Emmanuel Macron?
Oui, c'est ce qu'a fait effectivement le président hier pour célébrer l'amitié franco-italienne. Il a reçu son homologue Sergio Mattarella à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. L'artiste italien avait vécu les 3 dernières années de sa vie au Clos Lucé. Un château d'ailleurs qui intéresse la justice. Des pièces classées du 18e siècle auraient été détruites. C'est ce que dénonce le magazine en ligne La Tribune de l'art, qui fait un parallèle avec la reconstruction de Notre-Dame. Jean-Gabriel Bourgeois.
Les photos sont sans équivoque. Avant 2016, des boiseries, des tapisseries du XVIIIe siècle ornent les salons du Clos Lucé. Aujourd'hui, on a fait un bond de 200 ans en arrière pour retourner à l'époque de Léonard de Vinci. Briques apparentes, poutres au plafond et sol en tomettes. Une reconstitution d'un atelier du génie florentin. Problème, il n'y aurait pas de preuve historique que Léonard de Vinci ait eu un atelier dans cette partie du château. On s'assoit sur le code du patrimoine patrimoine en toute illégalité, s'insurge le directeur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner.
Si Léonard de Vinci a bien habité au Clos Lucé, on ne sait pas où était son atelier, on ne sait pas comment il était, en tout cas pas comme cette espèce de parodie de reconstitution. Il y avait déjà beaucoup de mauvais signaux envoyés aux spécialistes qui ont écrit au président de la République pour lui demander de respecter le code du patrimoine pour Notre-Dame. Et au même moment, il s'affiche dans un endroit où on s'est assis sur le code du patrimoine de manière illégale et dont les services de l'État ont fait un signalement au procureur de la République. C'est la Disneylandisation du patrimoine.
D'après un architecte du patrimoine que nous avons pu contacter, lors d'une rénovation, les interventions doivent être réversibles. Autrement dit, la rénovation est acceptable seulement si l'on peut rétablir la vérité historique du bâtiment.
Jean-Gabriel Bourgeois. La liste des 23 femmes qui participeront au mondial de football le mois prochain en France, dévoilée hier soir dans le 20h. Seule grande surprise, l'absence de la joueuse du PSG, Marie-Antoinette Katoto, pourtant meilleure buteuse du championnat. La sélectionneuse Corinne Diacre estime qu'elle a manqué de quelque chose. La Coupe du Monde féminine s'ouvrira le 7 juin avec France-Corée du Sud. On parle BD à présent et ils font leur grand retour. Les Bidochons, près de 40 ans après roman d'amour, Robert et Raymond décident de mettre un peu de piment dans leur couple. Thierry Giffrotin.
La couverture annonce la couleur. Raymond, tout sourire, en costume bleu de Bunny avec oreilles de lapin façon Playboy. Robert, en pyjama, lui tournant le dos et lisant le mode d'emploi d'un petit objet coquin. C'est clair, les Bidochons découvrent l'univers du sexe gadgetisé. Les Bidochons, ou plutôt Raymond, qui a décidé de donner un coup de fouet à la vie sexuelle de son couple. Et la voilà qui participe avec quelques amis à une réunion lingerie sex toys façon Tupperware, où l'on teste avant d'acheter. Mais qui s'interroge quand même. Des fantasmes, elle n'est pas sûre que Robert en ait vraiment. Et elle a raison. Un nettoyage de peau au lait de concombre passe encore, mais se faire épiler, pas question! C'est des poils qui sont dans la famille depuis des générations. Imparable. Finalement, les Bidochons réussiront à mettre le feu, pas à leur couple, mais à leur maison. La faute à la poudre à fessée qui s'est enflammée au contact d'une bougie.
Thierry Giffrotin du service culture d'Europe 1 et les Bidochons relancent leur couple, édité chez Dargaud, sort aujourd'hui. Et puis il avait incarné le gros nounours de l'espace le plus célèbre avec des grognements reconnaissables entre tous, ceux-là même. Peter Mayhew, qui avait endossé le costume de Chewbacca dans Star Wars jusqu'en 2015, est décédé mardi au Texas. L'acteur britannique avait 74 ans.
Mais avez-vous eu la chance de faire une photo avec Chewbacca, Sophie ?
Pas le vrai, mais oui, le faux, oui.
Comment ça, le faux ?
Mais oui, c'est un faux, il y en a aussi.
Ah, c'était un faux, vous aussi ?
Mais oui,
mais je suis tellement déçue, c'était pas le vrai Chewbacca.
Mais il était très grand quand même. Mais
parce qu'Eva, tout à l'heure, nous a dit qu'elle avait une photo avec Chewbacca. Je suis très déçue de cette histoire. Heureusement que Sophie était là pour rétablir la vérité. Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud. Bon week-end, Sophie. On passe à la météo avec cette journaliste franco-portugaise qui se démultiplie, mais qui met dans chacune de ses activités le même degré d'exigence. Revue de presse, météo ou encore cours de soutien en portugais, un mot d'ordre, l'intransigeance.
Bacalhau abraz.
Bacalhau.
Bien, dis donc.
Oui, bah oui. Avec ce degré d'exigence, ça va bien progresser, je pense.
J'encourage.
Sinon, la météo, Céline. Un ciel couvert et pluvieux.
Oui, c'est le programme d'aujourd'hui. Un nuageux ce matin sur une moitié sud, surtout avec des averses fréquentes des Landes à la Franche-Comté, puis en remontant jusqu'en Alsace. Plus au nord, nuages éclaircis et des ondées. Là aussi, un même topo pour cet après-midi, avec quand même un petit peu plus d'éclaircies. Le soleil va même bien résister avec un temps sec sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche. Les températures, elles commencent à baisser. 13 à 17 degrés pour cet après-midi. C'est surtout demain et jusqu'à lundi qu'on va bien pouvoir ressortir les doudounes. 10 à 12 degrés l'après-midi sur la moitié nord pour lundi, un petit degré en moyenne dans la matinée. D'ailleurs, si on fait un petit mot du week-end, si on a le temps.
Mais volontiers.
Alors, c'est pas terrible pour demain. Avec des températures qui baissent. Temps très agité demain, surtout sur la moitié nord, avec du vent localement, même du grésil. Du vent, on en aura aussi dimanche sur toute la partie est du pays. Les éclaircies vont revenir, mais la pluie sera encore bien présente sur tout un quart nord-est du pays.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, l'actu et leur terrain de jeu, la décryptée pour vous et leur kiff. Les trois fantastiques arrivent ce matin avec au programme notamment, derrière une façade d'unité, des divisions qui commencent à poindre au sein du gouvernement. Quels sont les groupes en présence ? Mickaël Darmon nous éclaire.
Bienvenue à tous sur Europe 1, il est 6h42.
Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'irruption de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière mercredi lors du 1er mai vire à la polémique. Christophe Castaner a parlé d'une attaque contre le service de réanimation. Les images diffusées montrent plutôt une grande confusion. L'opposition crie au mensonge et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. Leur avenir s'est éclairé. Les 270 salariés d'Ascoval gardent finalement leur travail. La Syrie du Nord sera reprise par le britannique British Steel. Décision hier de la justice. Enfin, dans 3 semaines, les élections européennes. Selon un sondage Europe 1, La Tribune, réalisé par BVA Orange, l'écart se resserre entre La République En Marche et le Rassemblement National. Si le scrutin devait se tenir ce dimanche, ces partis recueilleraient respectivement 22 et 21%.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ça devait être le jour J. Pour la récompenser de ses bonnes interventions, de plus en plus pertinentes au fil des semaines, elle devait intégrer ce matin l'équipe des Fantastiques pour un édito géopolitique. Hélas, Céline Dacosta s'est disqualifiée elle-même en commentant en off hier l'interview de Christophe Castaner, perdant quelque peu de vue la sacro-sainte neutralité journalistique.
D'un hôpital comme celui qui nous accueille aujourd'hui, celui de la Pitié-Salpêtrière, j'avoue. Je crois qu'on touche le fond.
Voilà, on reste donc finalement à 3 fantastiques. Eva Rock pour les médias, Emmanuel Duteil pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. On commence avec vous, Mickaël. Après avoir observé les cortèges et les défilés, vous nous proposez ce matin de décortiquer le cortège gouvernemental. Plusieurs groupes sont ainsi présents au sein du gouvernement.
Et s'ils sont en marche pour le projet présidentiel, eh bien tous ne vont pas au même rythme. Alors vous avez le groupe des territoriaux, le plus influent actuellement d'ailleurs auprès du président de la République. Il regroupe ceux qui sont en lien avec les territoires et les dossiers sensibles. On retrouve Sébastien Lecornu, Didier Guillaume, Jacqueline Gourault, Gérald Darmanin, Olivier Dussopt. Ce groupe explique et plaide auprès de l'Élysée pour une coloration plus politique de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, la leçon de politique adressée par le président au ministre, eh bien, correspond à leur approche. À côté, on trouve les sociétaux, ceux qui sont issus de la société civile, les experts, le trio Pénicaud-Buzyn-Blanquer. Ils considèrent que le triptyque santé, travail, éducation, eh bien, constitue la clé de voûte de l'action présidentielle. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer aimerait bien développer son influence politique sur cette base. On peut d'ailleurs aussi rajouter à la marge la garde des Sceaux, Madame Belloubet. Il y a les indépendants agissants, ceux qui sont devenus leur propre marque ou en passe de l'être. Castaner, Schiappa, Riester, le maire de Rugy. Sécurité, égalité, culture, économie, écologie, ils sont portés par leur sujet très identifié par la société. Et pour la porte-parole Sibeth Ndiaye, l'enjeu est d'allier à la fois savoir-faire et faire savoir, sans oublier donc les VRP du président, infatigable et discret, Le Drian, Nunez, Lemoine, diplomatie, sécurité, commerce extérieur. Ces jours-ci, ces ministres ont bien compris que l'après-grand débat national et les élections européennes agissent comme des accélérateurs de particules et que des lignes sont en train de bouger dans la pratique présidentielle, d'où l'effervescence entre ces visions différentes qui s'affrontent en coulisses.
Ils sentent que le président Macron a des fourmis dans les jambes et que tout ça est au-delà d'un enjeu de remaniement ou de promotion personnelle.
Oui, parce que même s'ils y pensent et s'observent plus ou moins amicalement, bien la consigne présidentielle de changer de méthode est un défi qui leur est lancé. Emmanuel Macron leur demande de prendre le contrôle sur leur administration et que les mesures annoncées ne soient pas retardées plus avant. Le groupe des territoriaux explique au président que le temps est venu d'ailleurs de remanier largement l'équipe. Les sociaux, eux, pensent que la crise ne sera résolue qu'avec du temps et des réformes constantes. Bref, ce seront les choix prochain d'Emmanuel Macron. Comment présider autrement? Parce que seul son nom est tagué sur les murs pendant les manifestations des Gilets jaunes. Secoué par la révolte des ronds-points, la Macronie arrive à un carrefour et cherche encore sa voie.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cette analyse. On passe à l'économie avec vous, Emmanuel Duteil.
Il paraît.
Et ce matin, il est insolent. Et ce matin, on s'intéresse au plan batterie que les Allemands et les Français vont lancer. On en sait maintenant un peu plus. Bruno Le Maire et son homologue allemand ont mis hier un coup d'accélérateur.
Oui, la France et l'Allemagne ont fait un constat assez simple. Si nous ne fabriquons pas des batteries électriques en Europe, on peut fermer tout de suite nos usines automobiles. Je suis à peine dans la caricature. Un ministre de premier plan me disait récemment, si on ne produit pas de batteries, nos constructeurs vont tout simplement disparaître. Ça a au moins le mérite de la clarté. Il faut dire que dans les petites voitures, la batterie représente la moitié de la valeur, un tiers dans les grosses. Si tout le parc était électrique, vous imaginez bien que nos constructeurs seraient à la peine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, le marché des batteries est en grande partie dominé par les Coréens et surtout par les Chinois.
Alors, comment on fait pour les rattraper ou en tout cas au moins les concurrencer?
Eh bien, roulement de tambour. On va créer l'Airbus des batteries. C'est toujours comme ça en Europe. Comme Airbus a plutôt bien réussi, on le ressort à toutes les sauces. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le dit lui-même. Cette initiative, c'est la plus importante depuis Airbus. on y revient, on retombe sur nos pas. Donc à quoi ça va ressembler? On va quand même essayer d'être un petit peu concret. Eh bien, Français, Allemands ou Polonais, par exemple, veulent créer une filière intégrée qui irait de l'extraction des métaux rares, indispensable à la fabrication d'une batterie, jusqu'au recyclage de ces batteries, tout en passant bien évidemment par la production de ces batteries. 5 à 6 milliards d'euros vont être investis dans ce projet. Une usine pilote devrait ouvrir en France d'ici 1 à 2 ans maximum. Ce sera un petit site. 200 emplois devraient être créés au démarrage. Ensuite, les différents pays en sont persuadés. Ce sont des milliers d'emplois à la clé. Des acteurs industriels comme PSA et sa filiale Opal sont également dans le projet.
Parce que tous les indicateurs sont au vert, l'électrique devrait fortement progresser.
Oui, en effet, il faut donc aller vite. La première des choses à faire, c'est de sécuriser les approvisionnements en métaux rares. Aujourd'hui, ils sont en grande partie à la main des Chinois. Et ensuite, il faut donc créer toute la filière dont on parlait il y a quelques instants. Pour Bercy, c'est une question de souveraineté économique. Si on est dépendant des Chinois, c'est fini. Le problème, c'est que c'est peut-être déjà trop tard. Pékin a mis des plans massifs sur l'électrique depuis des années. Un spécialiste du secteur me disait « C'est ahurissant de voir que des constructeurs chinois qui n'existaient pas ou presque il y a quelques années ont aujourd'hui une technologie très en pointe sur l'électrique. Du coup, nous, on arrive tard. Comme toujours, on palabre surtout beaucoup avant. On met certes quelques milliards sur la table, mais il en faudrait sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, comme disait une personne bien au courant du dossier, je préfère me battre et perdre plutôt que de perdre sans m'être battu. »
C'est exactement ce que me disait Eva hier. Et merci Emmanuel Duteil. Eva Rock, qu'est-ce qu'on garde à la télé ce soir? Un peu
c'est
d'amour. Vous voulez
soir...
dire qu'Emmanuel Duteil n'est pas glamour?
Mais non, mais pas du tout. Mais des batteries.
Probablement raison.
Non, mais des batteries électriques, c'est pas glamour. Pardon.
Oh,
excusez-moi.
Vous voulez dire que c'était presque ennuyeux, c'est
non,
ça?
Non, mais dites-le. Batterie...
Dites les choses, Eva. On va débriefer tout ça après.
Un jour, un destin. Alain Delon. Pardon. France 3, 21h. Le magazine de Laurent Delahousse débarque en prime time et sur France 3 désormais. Et donc pour inaugurer ce changement, portrait d'Alain Delon, un homme décrit comme solitaire, par son entourage très proche, mais aussi par lui-même.
La solitude, c'est pas une tare pour moi, parce que j'aime ça. Je m'y suis fait très jeune, très tôt. Moi, je suis toujours l'enfant que j'ai été. Je crois qu'on joue à l'homme, comme on joue à l'acteur. Mais que la vérité, c'est ce qu'on a été en début de sa vie, dans sa petite enfance, tout est là.
Alors, images d'archives inédites, témoignages rares, rythme évidemment ce documentaire, qui revient notamment sur la relation quasi-filiale que Delon a eue avec plusieurs cinéastes, plusieurs réalisateurs, à commencer par Visconti ou encore Melville. Et bien pourtant, avec ce dernier, Delon va se fâcher au point de ne plus se parler, jusqu'au jour où il apprend que Melville vient d'être hospitalisé. Il traverse la France en pleine nuit, arrive au petit matin chez le cinéaste, et là c'est son neveu, Rémy Grumbach, qui l'accueille.
Delon s'effondre, mais s'effondre. Je me souviendrai toujours de cette image, il tombe en bas des escaliers. Et même pendant un certain moment, il y a des gens qui arrivaient, des gens très proches, qui enjambaient presque de long, qui restaient là, complètement prostrés.
Et oui, Melville est décédé pendant la nuit, pendant que Delon faisait le trajet jusqu'à Paris pour venir le voir. Delon est très marqué par cette disparition, mais alors écoutez bien ce qui suit. On est 3 semaines après le décès de Melville. Delon a accepté une interview, au cours de laquelle, évidemment, le journaliste lui pose une question sur Melville. Écoutez bien la réponse.
Il a besoin, de son côté, de travailler avec d'autres acteurs, de renouveler sa création, et moi-même d'aller travailler ailleurs. Et je crois que dans quelques temps, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années... À ce moment-là, j'espère et je pense que nous nous retrouverons et que nous aurons encore beaucoup de choses à faire, très belles et très importantes pour le spectateur.
Oui, Delon est dans le déni. Mmh. Delon n'accepte pas que Melville soit mort. Séquence stupéfiante où il parle de Melville au présent et où il imagine des projets futurs. Et c'est une séquence tellement stupéfiante qu'on comprend à travers ses mots à quel point la disparition de ses proches, alors de Romy Schneider à Mireille Darc, en passant par ses réalisateurs, mais aussi Sacha Distel ou Jean-Pierre Cassel, dont il était proche, le pousse à se retrancher dans sa propriété à Douchy. Il est seul, entouré de ses chiens, une immense maison dans laquelle on va découvrir, alors vous ne la verrez pas à l'écran, mais c'est sa fille Anouchka qui l'a décrit, une pièce entière, sorte de loge de maquillage qui est reconstituée et qui lui sert de musée personnel dans laquelle il aime se recueillir. Le documentaire est étonnant et c'est à voir sur France 3. Et puis un dernier mot pour vous signaler la démarche originale initiée par Arte qui demain, à partir de 6h du matin et pendant 24 heures, va proposer 26 films d'une heure, 60 jeunes Européens de 15 à 30 ans.
26 films d'une heure pendant 24 heures, ça c'est un...
Non mais... Vous allez comprendre, oui, mais parce que...
Un
oui,
défi voilà. À toutes les lois de
non,
mathématiques.
Il y a 20, oui, parce que vous avez raison, vous avez deux films en plus. Mais 24 heures avec 26 films, 60 jeunes Européens de 15 à 30 ans ont été filmés en temps réel et offrent une cartographie humaine et humaniste de l'Europe. Enfin, pendant 24 heures, vous pouvez rester devant votre télé surtout.
Pendant
voilà.
26 heures,
voilà.
Du coup.
Non, pardon, 24 heures,
c'était
c'est 24
très bien.
Heures.
Bon, voilà. 24 merci heures. Beaucoup Eva Rock, merci Emmanuel Duteil, nickel.
Je crois qu'elle ressortira celle-là.
L'équipe... Oh, il m'énerve, vous savez, il m'agace.
L'équipe, attendez, laissez-moi, l'équipe des 1, 2, 3 fantastiques sera de retour.
La chose à l'entour de 7h15.
Axel de Tarlet. Axel de Tarlet sera de retour. Merci pour cet intérim prestigieux, Emmanuel Dutheil.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt fini. Le doux fumet du week-end caresse nos narines. Mais juste avant de céder la place à Pierre de Villeneuve pour la matinale d'Europe 1, je vous annonce ce matin dans les briefs un événement. Le monde de l'humour est en émoi. Céline Dacosta a signé hier la vanne interdite. Cette vanne qu'aucun humoriste, même au fin fond du caveau de la République, n'avait osé. Et pour cause, elle est la première qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de Luigi Di Maio. Oh, oui. Je vous laisse imaginer, Pierre de Villeneuve, qui l'a vécu en direct, préfère vous prévenir.
En effet, ça donne la chair de poule.
A tout de suite.
Bon réveil, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Le week-end arrive pour l'équipe de Debout les copains, mais pas pour Pierre de Villeneuve. Encore une matinale à présenter avant le retour de Nico Saliagas, qui nous écoute certainement en direct de l'île de Glandos, perle des Cyclades, ou bien est-ce plutôt...
Sur l'île de Branlos.
Peut-être, Pierre, je ne sais pas. En tout cas, en son absence, il a décidé de vous confier les clés de la matinale.
Il a bien raison de laisser ça aux professionnels.
Des propos qui n'engagent que vous, Pierre. Même si, il faut l'admettre, vous êtes un journaliste solide. C'est vrai, brillant même. Toute la semaine, vous avez envoyé du rêve à Céline Dacosta, qui a littéralement des étoiles dans les yeux quand elle parle de vous. Il faut dire que vous avez toutes les qualités. À commencer par un sex appeal enivrant pour les femmes présentes bien dans sûr. Le studio.
Fait chaud ici. Pierre, j'enlèverai mon pull.
Mais celui qu'on surnomme désormais dans les couloirs d'Europe 1, le phénomène Villeneuve, c'est aussi des qualités journalistiques rares, comme par exemple cette faculté étonnante qui s'est découverte hier.
Je me suis rendu compte que j'arrivais à lire de haut en bas en fait, ou plutôt de bas en haut.
Et de gauche à droite, est-ce que tu peux de gauche à droite?
De haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, aucune feuille à quatre ne résiste à la sagacité du phénomène Villeneuve. Alors attention à ne pas trop se griser quand même, on se souvient d'Icare qui, à vouloir voler trop près du soleil, avait fini par se brûler les ailes et à retomber comme une crêpe. Hier, se sentant en confiance, Pierre a franchi peut-être la ligne rouge, il s'est foutu de la gueule de l'accent de Jean-Michel Apathy. Oh non. Bon, jusque-là, aucun problème, on l'a tous fait, sauf que lui, il s'est foutu de l'accent d'Apathy en face d'Apathy. À son petit sourire crispé, on a compris que ça avait moyennement plu à Jean-Michel.
33 ? 33, dites 33 ! Rien, rien.
Très drôle, mais si tu me refais ça une fois, je te déglingue un coup de maquilla, mon grand. Non, Villeneuve, ne pas énerver Jean-Mich, qui, cela dit, n'est pas resté crispé très longtemps. Très vite, il s'est adouci à la faveur d'un sujet sur la sieste qui a permis aux éditeurs de cerner une autre facette de Jean-Michel Apathy. Comme dirait Villeneuve, c'est un coquinou.
La sieste, c'est bon pour la santé, pas que pour le moral, et c'est désormais prouvé.
Sieste à deux ?
Non, on a dit dormir, Jean-Michel.
C'est plus une sieste.
Non, rajoutez pas dans le stupre, Pierre. Vous allez nous exciter. Heureusement, ce qui suit va permettre de refroidir l'ambiance assez radicalement, je crois, les amis. Puisqu'en effet, c'était un accord tacite entre humoristes depuis l'arrivée aux affaires en Italie de Luigi Di Maio, ne jamais faire la blague évidente et nulle que son patronyme évoque spontanément aux amateurs de kebab. Seulement voilà, visiblement, personne n'avait prévenu Céline Dacosta qui hier s'est lancée. Un moment d'embarras comme l'humour en a rarement connu depuis ma blague sur le Yorkshire, ce qui n'est pas peu dire.
Le soutien au gilet jaune du ministre 5 étoiles Luigi Di Maio, très mal perçu à Paris.
Luigi Di Mayonnaise ?
Non, rien, j'ai fait une petite vanne nulle.
Je crois que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, souhaite s'exprimer.
Je crois qu'on touche le fond.
Pour une fois, je suis d'accord avec Castaner.
Merci Mathieu Noël. Et bon week-end.
Bon courage à vous.
Je pleure.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.